Dans les années 1990, l'écrivain Jean-Paul Dubois a sillonné les États-Unis pour le Nouvel Observateur. Sa mission ? Regarder passer la vie dans les commissariats, les hôpitaux, les tribunaux, les églises et les bars. Il en a rapporté ses chroniques, qui sont autant de petits romans vrais de l'Amérique, l'Amérique de Trump avant Trump, et trace le portrait d'une société où cohabitent tous les excès, où se répandent toutes les fièvres morales et les tensions raciales. Plus de 20 ans après, elles n'ont rien perdu de leur acuité. L'Amérique m'inquiète, de Jean-Paul Dubois. Texte choisi par Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Quatrième épisode.
La mort lui va si bien. Los Angeles, Californie, 13 mars 1997. Un jour, la mort a changé la vie de Vidal Herrera. Elle lui a ouvert les yeux, a fait de lui un homme riche et lui a redonné le goût du bonheur. C'était en 1988. À cette époque-là, Vidal n'était qu'un homme parmi d'autres. Un latino de 100 kilos portant de sombres moustaches, vivant dans les faubourgs pelés de East LA et gagnant un maigre salaire en ramassant les cadavres de type assassiné qu'il glissait dans des housses en plastique avant de les apporter à la morgue. Vidal Herrera faisait ce travail de nettoyeur pour le compte du procureur de Los Angeles. Un matin, tandis qu'il soulevait une dépouille de fort tonnage, son dos le lâcha. Ses vertèbres partirent dans tous les sens et des hernies discales firent de lui un homme guère plus valide que les clients qui l'empaquetaient. Licencié de son emploi, à demi infirme, Vidal se mit à lire les journaux, surtout les magazines économiques. Et il ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait là-dedans, mais il cherchait. Dans un numéro de Fortune, il tomba sur un article intitulé « The Golden Era Death », l'âge d'or de la mort. L'auteur racontait les formidables batailles que se livraient les grands groupes industriels et financiers pour racheter des cimetières privés, des funérariums ou des entreprises de pompes funèbres. Car, poursuivait le rédacteur, ces hommes d'argent avaient compris que dans les 30 prochaines années, la mort serait d'un bon rapport. Tout simplement parce que la génération des baby-boomers, qui dans les années 50 avait fait le bonheur des maternités, ferait bientôt celui des hospices avant de combler les marchands de concessions à perpétuité. L'âge d'or de la mort. C'était donc cela, l'avenir. Vidal Herrera se remit sur ses jambes, emboîta le sens d'une histoire qu'il savait inéluctable et entreprit de suivre des cours d'assistant d'autopsie dans un hôpital public. Chemin faisant, entre les lambeaux d'un foie et les nerfs d'un jambier antérieur, l'idée lui vint de monter sa propre affaire. Son petit job personnel et privé de disséqueur et de préleveur d'organes. C'était tout à fait légal. Même s'il n'avait aucun diplôme de médecin, il possédait la pratique et connaissait le travail. Lui ferait le sale boulot, se colletterait avec la viande et les viscères qu'il confierait ensuite à un praticien de laboratoire chargé des analyses. À première vue, tout cela ne ressemblait à rien. Et lorsqu'il acheta pour $200 son premier Honda Civic coupé d'occasion, vert pomme, sur lequel il inscrivit Autopsy Post Services Incorporated, il fut la risée de tout East LA. Aujourd'hui, Vidal Herrera habite les beaux quartiers, gagne 1,5 million de dollars par an en réalisant avec ses 4 assistants 900 autopsies totales et 700 partielles. Depuis qu'on a relaté son succès sur CNN, 2400 personnes dans tout le pays lui ont écrit pour acheter, moyennant $36,000, la franchise de sa marque déposée 1-800 Autopsy, et il vient de refuser de vendre son label à un grand groupe qui lui proposait $9,2 millions. En outre, à des fins publicitaires, la firme Volkswagen a décidé de lui offrir 8 fourgonnettes qui sillonneront bientôt les rues de Los Angeles. Et Herrera est en train de négocier avec Nike un parrainage pour son équipe d'athlétisme, des marathoniens baptisés les Stiff, les cadavres, qui pour le moment trottent sous les couleurs d'autopsie. Le rouge et le noir. Le rouge c'est le sang, explique Vidal, et le noir bien sûr c'est la mort. La presse l'a baptisé le prince des cadavres, et ses amis latinos el muerto. Et lui, plus que jamais, trouve que la vie est belle. Malgré l'afflux des dollars, il continue, 18 heures par jour, à faire le boulot lui-même, en se brisant le dos et en cassant les prix. Dans le comté de Los Angeles, diligenté par le coroner, une autopsie complète revient à 2541 $. Vidal propose le même travail pour 2200. Ce matin, Herrera est fatigué. Il a passé la nuit à disséquer un cadavre. Entre un seau en plastique dans lequel flottent un cerveau et des boyaux sous verre, Vidal nous présente un grand bocal rempli de chairs ondulantes en suspension dans un liquide jaunâtre. « Ça, vous voyez, dit-il d'un regard éloigné, c'est un homme en lamelles. J'ai prélevé un morceau de tous les tissus, de tous les organes qui font un être. C'est un travail très long, très astreignant, très minutieux. » Au-dessus de lui, une pendule bleue, où l'on peut lire « Dead End Motel », égrène des secondes interminables. Dans la presse économique, Vidal lit avec un certain bonheur l'histoire de sa propre réussite. On raconte partout qu'il a inventé la « freelance autopsie ». Et à ce titre, il est invité à la Death Care World Expo, le salon mondial de la mort, qui se tiendra bien sûr à Las Vegas les 17 et 18 mars. Vous voulez que je vous dise un truc ? Mon rêve, ça a toujours été de monter un restaurant, un endroit confortable et sympathique. Et voilà que je me retrouve à découper des cadavres. Mais ça ne fait rien. Avec toutes les franchises 1-800 Autopsy que je vais lancer, et sur lesquelles je toucherai 10% du chiffre d'affaires, l'idée, c'est de réussir dans l'industrie de la mort ce que McDonald's a fait avec les hamburgers. Je crois en mon succès. Et vous savez pourquoi ? Parce que la mort est là, toujours, constante, présente. Dans ce job, il n'y a pas de récession. En outre, avec une forte propension à la procédure, les États-Unis offrent à Vidal un formidable champ d'opération. Beaucoup de mes clients me contactent à la suite du décès d'un de leurs proches à l'hôpital. Ils suspectent une faute médicale. Il y a ici une médecine pour les pauvres et une autre pour les riches. Moi, je ne donne mes résultats qu'à mes clients. Pas aux hôpitaux, ni à la justice, ni à la police. Je travaille aussi pour les célébrités. Quand une vedette meurt d'overdose, par exemple, sa famille veut souvent un job discret. Et puis, il y a ceux dont les parents sont décédés d'un Alzheimer ou d'un Parkinson et qui veulent une confirmation de ce diagnostic. Les avocats de Los Angeles sont aussi très demandeurs des services de 1-800 Autopsy. Johnny Cochrane, notamment, l'avocat d'O.J. Simpson, est un fidèle de la maison. Hier, il a appelé pour demander à Herrera de procéder à une seconde autopsie d'Ennis Cosby, le fils du célèbre acteur Bill Cosby, assassiné par balle sur une highway de la ville alors qu'il changeait un pneu crevé de sa voiture. Comme à chaque fois, Vidal va faire le sale travail qui sent mauvais, pour le compte d'un honorable anatomopathologiste, qui ensuite analysera les tissus en laboratoire. Solitaire et discret, tel un privé de Chandler, il enquête dans les entrailles de la mort. Dans les hôpitaux, on ne me regarde pas. Je crois qu'on ne me voit même pas, parce que je fais le travail au bas de l'échelle. Je suis l'ouvrier fantôme des cadavres. Au-dessus de nous, nous écoutons la pendule Dead End Motel qui avance dans le temps pendant que, sous nos yeux, l'homme en lamelles n'en finit pas de flotter. Vous avez un moment ? Venez, je vais vous montrer mon camion. Les sous-sols de l'hôpital des vétérans sont interminables. Tandis que nous cheminons dans ce dédale, Vidal dit « Le camion, pour l'instant, c'est mon vrai bureau. Dedans, j'ai un téléphone, un fax et tous mes outils. C'est normal, je suis itinérant. Je travaille dans toutes les morgues, tous les hôpitaux de la ville. » Soudain, sur le parking, on aperçoit l'engin. Un van Astro Chevrolet, blanc comme un réfrigérateur, avec un énorme 1-800 Autopsy peint à l'avant et à l'arrière. Sur les flancs, Vidal s'est contenté d'afficher les spécialités de la maison, comme l'autopsie, les analyses ADN ou la consultation pour séries télé. Oui, au fil du temps, Vidal est devenu l'homme à tout faire, le buzz boy de la mort. Il accepte de la poudrer pour les films d'Hollywood, tout autant que d'en récurer les miasmes bien réels. Vous voulez voir l'intérieur ? C'est dans ces caisses de plastique que je transporte mes prélèvements. Dans les grosses, je mets les membres ou les grosses parties du corps. Et ça, c'est ma boîte à outils. D'un geste, Vidal déploie son attirail. Une perceuse pour ouvrir les crânes, des scies pour segmenter les os, toutes sortes de couteaux de boucherie pour le gros de l'ouvrage, des scalpels pour la finition et, enfin, d'énormes sécateurs pour sectionner les côtes afin d'accéder au cœur du labeur. Et l'on reste là, planté devant le van, muet dans cette lumière du matin, l'esprit en paix, à contempler la panoplie chromée de l'artisan millionnaire. Bientôt, je vais ouvrir un site sur Internet. On pourra avoir tous les renseignements sur mon travail, mais aussi acheter les t-shirts et les blousons rouges et noirs des stiffs. C'est dans l'ordre des choses. Vous savez ce que je me dis ? Que grâce à mon idée et aux franchises, des gens simples comme moi vont pouvoir monter leur petit job indépendant dans toute l'Amérique. Et c'est ça qui me plaît. Dead End Motel. Tandis que Vidal Herrera, 45 ans, range son matériel funèbre en célébrant l'avenir, nous, nous pensons à la pendule bleue qui tourne, aux années qui filent, à notre âge qui avance et à la Golden Era Death qui nous attend.
There was only one road back to LA. US Interstate 15. Just a flat-out high-speed burn through Baker and Barstow and Purdue. Then onto the Hollywood freeway straight into frantic oblivion. Safety. Obscurity. Just another freak in the freak kingdom. We'd gone in search of the American dream. It had been a lame fuck-around. A waste of time. There was no point in looking back. Fuck no, not today, thank you kindly. My heart was filled with joy.
La mort, valeur sûre. Los Angeles, 30 octobre 2003. Tyler Cassidy a le visage d'un enfant raisonnable, surtout lorsqu'il s'assied à son bureau et explique comment, depuis quelques années, le marché funéraire, à l'image de celui d'Internet, a perdu la raison. À 33 ans, onctueux directeur d'un cimetière de luxe, il règne sur ce petit royaume des morts. Voulant anticiper le tsunami des boomers, trois multinationales, SCI, Stewart Enterprise et Alder Woods, se sont mises à racheter à tout prix cimetières, maisons funéraires et toute société ayant partie liée avec la mort. Aveuglées par le lucre, ces compagnies négligèrent pourtant un élément statistique important. Le nombre sans cesse croissant d'Américains et de citoyens du monde choisissant d'être incinérés plutôt qu'enterrés. Aux États-Unis, le coût moyen d'un enterrement est de 4 600 $. Celui d'une crémation, 600 $. On imagine la pâleur des investisseurs en mesurant l'ampleur de leur méprise. À quoi bon posséder tous les funérariums s'il y a de moins en moins de cadavres à exposer à l'intérieur? Pourquoi une famille dépenserait-elle 10 000 $ pour un cercueil Parliament en acajou ou 14 000 pour un Millennium en inox, quand une simple urne émaillée à 200 $ fait amplement l'affaire? Un instant déséquilibré par cet imprévu, le death business va alors réussir un rétablissement spectaculaire, l'une de ces contorsions dont l'univers capitaliste seul a le secret. L'Amérique, qui jusque-là avait toujours tenu la mort à distance, prônant même le culte d'une éternelle jeunesse, va peu à peu, sous l'influence du lobby de la mort, apprendre à jouer avec le trépas. Le but des industriels est simple, faire de la mort un moment de consommation comme un autre. Vendre des funérailles, qu'elles soient classiques, modernes, bizarres, new age, rock, et même fun s'il le faut. Innover, créer de nouveaux marchés, n'importe quoi, des modes, des tendances, des niches. Il faut bien reconnaître que les choses ont pas mal bougé, murmure Tyler Cassidy de sa voix professionnellement compassionnelle. Surtout ici en Californie, où l'on vit dans le culte du corps et de la beauté. Petit à petit, la mort est devenue tendance, vraiment dans le coup, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a commencé avec la série Six Feet Under, qui nous raconte tous les aléas de la profession, mais aussi les feuilletons CSI sur la vie des légistes ou Law and Order. La mort s'est installée dans la vie de tous les jours. De plus en plus de longs métrages récents ont sauté le pas du trépas. L'embaumeur, ou encore The Exit, l'histoire d'un malade en phase terminale qui invite ses amis à une party avant de se suicider. Des livres comme The Lovely Bones ou The Dogs of Babel rôdent aussi ouvertement autour de la mort. Et les actionnaires des hommes en noir, bien sûr, se félicitent de ces flirts morbides. Comme tout le monde, Forever Cemetery suit la tendance en incluant quelques nouveautés dans son catalogue. Nous offrons un service unique, tout à fait dans l'esprit d'Hollywood, observe Tyler. à partir de documents et de vidéos familiales, une équipe de 5 monteurs, employés à plein temps par le cimetière, réalise des courts-métrages de 8 à 56 minutes, retraçant la vie du défunt. Ces films, ils s'en fabriquent ici 30 par semaine, facturés en moyenne 1 dollar la seconde, sont présentés en une sorte d'avant-première à la famille, avant d'être diffusés le jour des obsèques sur écran géant. « Nous avons un service identique pour les animaux », ajoute Tyler, « et ça marche très bien. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans un pays où les gens dépensent davantage pour l'entretien de leurs chiens que pour celui de leurs grands-parents. » Diversifier les offres, stimuler le marché, l'étirer comme un élastique, surfer sur la vague qui enfle, telle est la règle. Dans la salle d'avant-première, Tyler Cassidy baisse les lumières et, lentement, comme des lueurs de l'aube, les morts remontent à la surface de l'écran. Dorothy et Lester Schaffer. Ils sont assis l'un près de l'autre et ils parlent à la caméra. Et lui évoque leur première rencontre. Et elle dit que tout cela est bien loin, mais que, quand même, elle s'en souvient. Et puis ils font silence, comme si chacun essayait de se rappeler la suite. Et rien ne vient. Et ils se prennent la main, et ils se regardent. Et ils sont si vieux. Et ils s'embrassent longuement sur la bouche, et la caméra, de près, les regarde faire. Et l'on entend au loin le clapot d'une musique. Et peu à peu, leur visage s'estompe. Et ils sont morts. Tujunga, une banlieue de Los Angeles. Vidal Herrera a l'air content de nous revoir vivants. Nous nous étions rencontrés il y a quelques années quand il avait monté sa petite entreprise d'autopsie privée opérant à la demande de toutes sortes de clients. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Vidal a grimpé de 300% et il est de plus en plus souvent engagé comme conseiller sur des tournages grands consommateurs de cadavres comme Six Feet Under. L'âge d'or de la mort, je le vois briller tous les matins quand je me lève. Il est là, presque à portée de main. Même si les grosses compagnies se sont un peu emballées sur leurs investissements, les chiffres, eux, sont rassurants. Aujourd'hui en Amérique, il y a 2,5 millions de morts par an. Dans 30 ans, avec le boom des boomers, on grimpera à 4 millions. Voilà effectivement de quoi nous rassurer. Les places de cimetière sont aussi un bon indicateur. En ce moment, ça spécule dans tous les sens. Il y a 7 ans, j'en ai acheté 4 pour moi et ma famille par le biais du syndicat. 200 $ chacune. Aujourd'hui, elles valent 10 000 $. Et ce n'est rien à côté d'une plaque à Westwood où est enterrée Marilyn Monroe. 70 000 $. À Rose Hill, la mère de Jackie Chan a dû débourser 100 000 $ pour acheter la sienne. Et c'est ainsi dans tout le pays. Comme le dit Cassidy, la mort est devenue tendance. Chacun lance sa petite affaire. Sur Melrose Boulevard, promenoir de la mode, c'est un loueur de voitures qui a inscrit son slogan sur un vieux corbillard Cadillac, « Rent or Die ». À Hollywood, devant l'afflux de demandes des studios de cinéma ou de télévision, aussi singulier que cela paraisse, une société de casting s'est spécialisée dans le recrutement d'acteurs capables d'interpréter en apnée des rôles de cadavres. Ce n'est pas aussi facile qu'on le croit de jouer un mort, dit Cristan Berona, son fondateur. À Chicago, c'est une société du nom d'Aftermath Incorporated qui, pour une somme pouvant varier de 3 000 à 7 000 $, se propose avec ses 16 techniciens, en moins de 24 heures, de désinfecter et de remettre en ordre un appartement ou un bureau souillé par un crime ou un suicide. La publicité de la compagnie, il y a des saletés que personne ne devrait avoir à nettoyer. À Saint-Louis, en revanche, le ménage est déjà fait quand la famille entre au Wade Funeral Home et découvre le défunt, cadavre exquis, le teint lumineux, souriant comme à ses plus beaux jours, installé dans son cercueil, entouré par exemple de ses mouches, de ses hameçons, de ses moulinets Mitchell et tenant à la main une sacrée canne à pêche. On recrée un décor qui s'apparente à la vie qu'aimait mener le mort. Là, il s'agit de pêche, mais si c'est un passionné de sport et un amateur de soirées entre amis, on installe un barbecue, des clubs de golf, un panier de basket, un écran de télé, et on passe une finale du Super Bowl. Tel est le nouveau concept développé par Deborah Kellum, gérante de ce Fun Herrarium. Il y a bien plus sophistiqué. Voilà quelques mois, nous racontions ici la manière dont Life Gem, une société située dans la banlieue de Chicago, récupérait, après crémation, le carbone contenu dans le corps d'un de vos proches pour le transformer en diamant. À cette excentricité, il faut maintenant ajouter les prouesses d'Eternal Reef, compagnie basée à Decatur, qui, elle, coule vos cendres dans du béton avant de vous expédier dans le fond des mers sur des barrières de corail. Celestis, une entreprise de Houston, s'occupe, elle, de vous faire monter au ciel en chargeant votre urne dans une fusée et en envoyant vos ultimes poussières d'humanité tourner en orbite autour de la Terre. Le marché a bien retenu la leçon. Séduire, diversifier et surtout innover. Dans n'importe quoi. À Las Vegas, chaque année, le congrès salon de la National Funeral Directors Association affine les stratégies de la profession. Voici quelques thèmes de causerie retenus cette année. Comment augmenter son cash flow funéraire? Savez-vous rendre les honneurs militaires? Êtes-vous préparé à recevoir des morts victimes d'attaques chimiques ou bactériologiques? Comment séduire aussi bien les vétérans que les boomers? L'idéal, une boutique qui peut vendre aussi bien les services que les accessoires. Quel type de crémation voulez-vous, Mrs. Morris? Comment traiter avec les médias? Peut-être en leur montrant simplement les nouveaux produits de cette industrie de la mort débordante de vie. Par exemple, les cercueils de la compagnie Batesville présentés par une équipe d'acrobates, ou bien ceux de chez York Group mis en valeur par des sosies d'Elvis et de Dolly Parton. Les toutes dernières réalisations de chez Pet Casket, spécialisées dans les sarcophages pour animaux. Le système Flex Air de chez Graham, sorte de coussin gonflable conçu pour donner, dans le funérarium, une posture, disons, plus vivante aux défunts. Et que dire du travail de Memorial Reflections, qui s'engage à éditer des posters géants de n'importe quelle mort en vous garantissant une livraison sous 3 jours. Ou encore des dernières trouvailles de ce fabricant de désodorisants offrant un produit capable de lutter contre les odeurs les plus extrêmes. Sans oublier les somptueux corbillards incrustés de marbre fabriqués par Lincoln et Cadillac, sobrement baptisé Dignity, Masterpiece ou encore Renaissance, ce qui est quand même assez audacieux pour un véhicule destiné à transporter des cadavres. Voilà donc l'état de ce monde terrifiant où les morts pêchent à la ligne, regardent le Super Bowl, calés sur coussins d'air, flottent en poudre dans l'espace ou stagnent bétonnés au fond des océans. Puissent ces cascades de mauvais goût et ces gargouillis de profit faire réfléchir l'armada des boomers déclinants et leur donner, le moment venu, la force de résister à ces ultimes et vaines tentations de rassembler leurs cendres et de quitter ce monde simplement, comme tant d'autres l'ont fait avant eux.
C'était « L'Amérique m'inquiète » de Jean-Paul Dubois. Texte choisi par Laurent Martin. 4e épisode avec Louise Pasteau et Bernard Gabet. Prise de son, montage et mixage, Émilie Couette, Sofiane Aktib et Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Michel Sidoroff. « L'Amérique m'inquiète » est publié aux éditions de l'Olivier.